Donc, Osée 5, du verset 1 au verset 15, nous lisons pour la gloire de notre Seigneur. Écoutez ceci, sacrificateur, sois attentive, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi, car c'est vous que le jugement, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Parce que vous avez été un piège à Mitzpah et un filet tendu sur le Tabor. Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans le crime. Mais j'aurai des châtiments pour eux tous. Je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. Leurs œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu. Parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. L'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité. Avec eux aussi tombera Juda. Ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. Il s'est retiré du milieu d'eux. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. J'en porterai et nul n'enlèvera ma proie. Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Parole du Seigneur. Amen. Après que les Israélites eurent sonné de la trompette pendant 7 jours, encerclant la ville, forteresse de Jéricho, la trompette sonna une dernière fois et on voyait que les murs s'écoulèrent. Donc lorsqu'on lit Josué 6, on peut voir que dans Josué 6, verset 16, « Poussez des cris de joie, car l'Éternel vous a livré la ville. » En Exode 19, les versets 16, verset 13, verset 13, 16 et 19, les Israélites ne produisaient pas ce son de la trompette. Mais ce sang provenait de la montagne sainte et donc qui représentait la présence de Dieu. Et donc dans l'Ancien Testament, on sonnait de la trompette pour diverses raisons. Les fêtes sacrées étaient saluées au son de la trompette, dans Lévitique 23, verset 24, tout comme l'ascension de Salomon sur le trône de David. On le voit dans le premier livre des Rois. Mais les trompettes annonçaient aussi des jugements. Par exemple, les 300 hommes de Gédéon sonnèrent des trompettes et Dieu jeta le trouble dans les armées de Madian, donc dans Juges chapitre 7, verset 19. Et il se peut donc qu'il se passe quelque chose d'assez inquiétant ici. Lorsque Osée s'écrit au verset 8, « Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven. » En effet, à cette occasion, les sons de la trompette a signalé non pas une victoire, mais une calamité, c'est-à-dire un malheur qui a été généralisé au sein du peuple d'Israël. Et donc Osée ici reprend ainsi l'ambiance qui était sombre du prophète Joël, qui prévoyait le jugement de Dieu, lorsque nous lisons Joël 2, versets 1 à 2, que tous les habitants, non, sonnez de la trompette en Sion, faites-la retentir sur ma montagne sainte, que tous les habitants du pays tremblent, car le jour de l'Éternel vient, car il est proche. Jour de ténèbres et d'obscurité, jour de nuée et de brouillard. Et donc les effets pour Israël ici seront dévastateurs. Comme on le voit au verset 9, Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. Donc mon premier point, les trois premiers versets, versets 1 à 3, une nation égarée. Nous avons vu que dans les trois premiers chapitres de ce livre d'Osée, Osée met en scène ici, notre Dieu met en scène l'apostasie d'Israël à travers ce mariage adultère de Gomer, entre Gomer et puis Osée. Le chapitre 4 a suivi avec la présentation d'un cas de rupture de l'alliance par le Seigneur qui était centré sur l'échec des prêtres. Parce qu'on l'a vu au verset 6 du chapitre 4, où nous lisons que mon peuple est détruit parce qu'il y manque la connaissance. Se plaint le Seigneur. Et ce sont les prêtres qui n'ont pas su enseigner le peuple d'Israël. Le chapitre 5, ici, poursuit le thème des dirigeants qui sont infidèles. Au chapitre 4, on parlait des prêtres. Et ici, il est élargi. Le public est élargi et il va même au niveau des dirigeants culturels, aux autorités qui étaient en place. Le prophète commence par dire, au verset 1, écoutez ceci, sacrificateur. Donc en se concentrant à nouveau sur les faux chefs spirituels. Mais il la rajoute, écoutez ceci, sacrificateur, sois attentive, maison d'Israël. Prête l'oreille, maison du roi, car c'est à vous que le jugement s'adresse. Donc il n'y avait plus que les prêtres, mais il y avait maintenant la maison du roi qui était responsable de toute cette idolâtrie au sein du peuple d'Israël. Et c'est à juste titre que les rois sont mis en cause, puisque la maison royale de Jéroboam avait érigé des images idolâtres à Bethel. Et c'est ce qui a causé le fait que le peuple s'est détourné de Dieu, que le peuple s'est concentré et s'est mis à adorer ses idoles. La maison d'Israël ici est incluse avec le roi et les prêtres. Et donc cette description peut viser aussi le peuple dans son ensemble. Donc toutes les personnes qui correspondaient, disons, à la colonne vertébrale, qui constituait, disons, le socle du pays d'Israël. Et donc, ces groupes, les prêtres, les rois, on parle même des aristocrates, ceux qui constituaient cette élite du royaume du Nord, tous étaient responsables de l'échec des prêtres et de l'échec du peuple à adorer son Dieu. Et là, le Seigneur leur demande maintenant des comptes. Le Seigneur leur demandait compte. Parce que c'était eux les autorités. C'était eux qui étaient censés édifier le peuple. Non. Là, le Seigneur leur demandait maintenant des comptes. Osée utilise un langage imagé pour décrire l'infidélité des classes dirigeantes d'Israël. Il identifie Mizpah et Tabor. Donc, il s'agit de deux lieux où de grands exploits ont été accomplis par le passé. Et donc lorsque nous lisons Juges 11-29, Mizpah en Galade est l'endroit où Jephthé a battu les Ammonites. Donc là on voit qu'il y a eu des victoires dans ce lieu. Et dans Juges 4, 14 à 15, et c'est sur les pentes du mont Tabor que Barak a conduit son armée, une armée de 10 000 hommes, pour mettre en déroute les Cananéens. Donc ces lieux symbolisaient des lieux de grande victoire et de lieux de grand succès. Et donc ces lieux ont eu tendance à devenir des sites sacrés par la suite. Et c'est par l'idolâtrie pratiquée ici que les dirigeants d'Israël ont égaré les peuples. Et c'est dans ces mêmes lieux-là qu'ils ont érigé tous leurs idoles pour égarer le peuple. Et là, on va voir par la suite que le piège était subtil et astucieux. Comme un chasseur qui appâte un piège à oiseaux. Au verset 1, on lit « Parce que vous avez été un piège à Mispa et un filet tendu sur le Tabor. » Ils ont, au lieu d'édifier le peuple, ils ont piégé le peuple. Derek Idner, un spécialiste de l'Ancien Testament, explique que les sanctuaires situés sur des hauts lieux, aussi célèbres que Mispa et le mont Tabor, séduisaient des centaines d'adeptes qui s'éloignaient de la vraie foi. Ces hauts lieux ne s'annonçaient pas comme de source d'idolâtrie, mais présentaient tantôt, plutôt, l'ancienne religion dans des habits modernes. Une fois que les gens y entraient, le piège ou le filet tombait sur eux, et ils étaient capturés dans une fausse religion. Kidner ici compare ce qui s'est passé à Mispa et au mont Tabor à des institutions d'enseignement chrétienne qui étaient autrefois renommées, qui se sont égarées de la parole de Dieu, qui se sont adonnées à des idoles et par la même occasion ont aussi induit en erreur ceux qui venaient à eux. L'idolâtrie s'est accompagnée d'un déclin moral et d'une violence sociale inévitable. Au verset 2, nous lisons « Par leur sacrifice, les infidèles s'enfoncent dans leurs crimes. » Ils s'enfonçaient dans leurs crimes. Et cette description correspond à la série d'assassinats qui a placé des rois sur le trône d'Israël. Et ça, c'était après la mort de Jéroboam II. On le voit en 745 avant Jésus-Christ. Et ces images suggèrent une atmosphère d'intrigue, une atmosphère de tromperie, de piège et de violence extrême. L'influence des dirigeants corrompus est encore plus évidente dans le verset 3. « Éphraïm, tu t'es prostitué, Israël s'est souillé. » Éphraïm était la tribu la plus grande et la tribu la plus puissante. Et elle produisait une lignée royale d'Israël. C'était une grande puissance. C'est donc leur idolâtrie qui a entraîné la nation dans la corruption. Toute la nation a embarqué dans cette corruption. Alors que ceux qui détiennent le pouvoir ont tendance à croire qu'ils peuvent dissimuler leurs abus, dissimuler leur méchanceté. Le Seigneur insiste sur le fait qu'il ne peut être tenu dans l'ignorance. Il le dit au verset 3 plutôt, « Je connais Éphraïm et Israël ne m'est point caché. Car maintenant, Éphraïm, tu t'es prostitué et Israël s'est souillé. » Dieu sait tout. Dans nos manipulations, dans tout ce que nous produisons à l'intérieur de nous, Dieu sait tout. Dieu est même capable de savoir si nous sommes des loups ravisseurs. Lui, il le sait, parce qu'il le connaît. Il est omniscient. C'est de l'omniscience de Dieu. Il sait tout. L'idée d'être découvert souvent terrorise des personnes qui sont rusées. Les gens qui sont fourbes, qui sont rusés. Ils ont souvent cette crainte qu'on puisse voir, qu'on puisse comprendre leur stratagème. Et lorsque tout est mis à nu, ben c'est souvent la fuite en avant. Mais il n'y a aucune capacité à se repentir. Il suffit de penser que les scandales politiques aujourd'hui impliquent souvent de vastes opérations de dissimulation. On ne sait pas ce qui se passe souvent à la tête de nos États. Mais on va voir qu'à un moment donné, il y a la guerre dans tel pays, il y a ça ici, et ainsi de suite. Mais Dieu est au courant de tout ce qui se passe. Même si tout cela paraît au grand jour, mais Dieu est souverain sur toute chose. Lui, il a décrété toute chose. Et il est au courant de tout ce qui se passe. Le verset 3 nous donne l'occasion de souligner l'application personnelle de la connaissance de Dieu. Le péché d'Israël était connu de Dieu et il en est de même de notre péché. Dieu sait. Il sait tout. Il sait tout parce qu'il connaît. C'est lui qui nous a créés. Il est impossible d'échapper à sa connaissance et tout péché commis est, j'aime pas vraiment le terme en quelque sorte, mais tout péché commis est commis en présence de Dieu. Même si nous sommes cachés dans notre chambre, même si nous essayons de dissimuler quoi que ce soit, ou même dans un autre pays, tout ce que nous faisons est en présence de Dieu. Le psaume 139, verset 7 et Hébreux 4, 13 renforcent cette vérité. Donc, psaume 139, verset 7. Où irais-je loin de toi, de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Hébreux 4, verset 13 dit: nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. C'est à Dieu que nous rendons compte. Donc, souvent, on peut se dire que bon, c'est pas grave, je le fais, personne ne me voit. Mais le temps de Dieu existe. Dieu sait tout. Et surtout, nous prenons souvent à la légère, parce que je vais en parler, souvent des responsables d'église, d'utiliser souvent notre position pour abuser des autres, pour faire du mal. Mais ce n'est pas aux hommes que nous allons rendre compte, c'est à Dieu que nous allons rendre compte. Parce que nous avons la responsabilité du peuple de Dieu. Ce n'est pas à prendre à la légère. Ce n'est pas que non, je connais la Bible et que je peux enseigner, mais il y a toute la sacralité autour de la parole de Dieu et de la position aussi qui vient avec. Et nous devons toujours nous remettre en question, de reconnaître que nous sommes des pécheurs. Et que nous ne sommes pas au-dessus de Dieu, non. Mais qu'une éthique biblique doit nous habiter. Qu'une éthique biblique doit nous faire comprendre que nous ne devons pas nous retrouver dans des situations où nous allons commettre le péché. Joseph, il a fui, hein. Il a fui. Mais c'était un homme qui était fidèle aux yeux de Dieu. Il a fui le péché. Comme on dit, il a pris la peau d'escampette. Il est parti. Il ne voulait pas. Donnons-nous une éthique. Parce que Dieu voit tout. Il sait tout. Et donc, c'est pourquoi le Seigneur déclare: mais j'aurai des châtiments pour eux tous, au verset 2. En cela, l'idée est celle d'un châtiment correctif en vue d'une restauration. En fait, Dieu allait bientôt envoyer le royaume du Nord, rebelle, dans la servitude de l'exil vers les Assyriens. Donc, ils allaient devenir esclaves en Assyrie. Quoi qu'il en soit, aussi réparatrice qu'ait pu être l'intention du Seigneur, la réalité de sa discipline serait extrêmement dure, sévère. Et donc la logique de ces trois premiers versets nous rappelle l'importance vitale d'une direction spirituelle dans l'Église du Christ. D'une direction spirituelle. Très importante. Lorsque nous lisons 1 Timothée 3, les 7 premiers versets, on énonce les qualifications d'un ancien. Et aucune de ces normes ne concerne le prestige social. La position sociale, aucunement. Ni un rang quelconque. Ni un poste quelconque. Au contraire, la priorité est accordée aux qualités, ces qualités-là qui faisaient défaut à Israël. Ces qualités faisaient défaut à Israël. C'est-à-dire un caractère pieux et des antécédents de fidélité. La fidélité en toute chose. La fidélité à Christ. Et donc, il incombe donc aux membres de l'Église de prier pour leurs dirigeants. Ce ne sont pas des surhommes, ce n'est pas un pasteur comme un ancien. Ce sont des êtres qui sont pécheurs aussi, qui ont besoin de prière également. Qui ont besoin de prière aussi. Une direction spirituelle sainte, saine et fidèle est l'une des plus grandes bénédictions de Dieu pour son peuple. Que ce soit dans l'Église ou dans notre foyer. Et les disciples du Christ devraient accorder une grande importance à une direction pieuse dans leur prière. C'est vrai pour l'Église, c'est vrai dans nos foyers, c'est vrai au sein de notre famille. Parce que nous sommes aussi un témoignage. Par notre attitude, par nos façons de faire, prions pour être des sels et des lumières dans ce monde. De plus, Osée, ici, dans les trois premiers versets, indique que ceux qui sont appelés à une direction spirituelle doivent s'attendre à un jugement qui est plus sévère de la part de Dieu, s'ils se révèlent infidèles. C'est exactement ça. C'est vrai que ça peut être bien beau d'être devant, de prêcher, d'avoir le rôle d'ancien, d'avoir un rôle de pasteur. Mais ça vient avec des comptes à rendre. Ça vient avec des comptes à rendre au Seigneur. Bien plus que les richesses ou les prestiges du monde, la fidélité dans le ministère est la clé. La fidélité en Christ. La fidélité dans les petites choses. C'est pas en se disant, bon, moi je vise seulement le pastorat, et puis le reste, non, c'est la fidélité dans les petites choses. Des fois, des trucs tout banals, des fois, on ne se rend pas compte. Parce que nous visons toujours, on se dit que c'est plus intéressant, c'est plus important. Vous savez, même simplement, tous les dimanches, ranger des livres, les recueils. Mais faire ça tout le temps, c'est ça la fidélité. C'est ça la fidélité. C'est être fidèle dans les moindres choses que nous faisons. Et c'est de cette façon aussi qu'en prenant le temps dans la prière, ça c'est notre combat à tous, quotidiennement, à lire notre parole, être fidèle dans ces choses, à persévérer malgré les difficultés et à demander l'aide à Dieu de nous donner cette persévérance. À rester connecté à lui, avec lui, exclusivement et tout le temps. Jésus a dit qu'à son retour, les bienheureux l'entendront dire dans Matthieu 25, 23, « C'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses. Je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. La fidélité dans les petites choses. Soyons fidèles dans les petites choses. Mon deuxième point, des versets 4 au verset 7, une nation au-delà de la repentance. Et donc, dans la première partie, ici, dans les premiers versets, trois premiers versets, Osée montre comment la nation d'Israël s'est égarée dans l'idolâtrie, la violence, et finalement, le jugement. Parce que le jugement n'intervient pas quand on a bien agi. Il y a eu quelque chose, il y a eu un précédent. Donc il y a eu une idolâtrie, il y a eu de la violence, il y a eu des crimes. Mais le résultat de tout ça, c'est le jugement. Et donc des versets 4 au verset 7, ici Osée décrit ensuite les effets de cette corruption spirituelle. Israël devenant une nation au-delà de la repentance. Et la Bible enseigne que les pécheurs peuvent toujours être rétablis par la repentance et par une foi qui est salvatrice. Le problème, c'est que le péché peut endurcir un cœur. Le péché peut endurcir un cœur au point de rendre les gens pratiquement incapables de se repentir. Vivre dans le péché, persévérer dans le péché, endurcit le cœur. Et on va voir par la suite l'orgueil. Et ici, c'est le cas du royaume du Nord. Donc au verset 4, nous lisons que les œuvres ne leur permettent pas de revenir à leur Dieu parce que l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et parce qu'ils ne connaissent pas l'Éternel. Donc l'esprit de prostitution est au milieu d'eux et ils ne connaissent pas l'Éternel parce qu'en effet, ils n'ont pas été exposés à la parole de Dieu. Donc les prêtres, ces sacrificateurs ont failli à leur tâche d'enseigner le peuple de Dieu. Et le peuple d'Israël ne connaissait pas Dieu. Et donc, une grande partie du problème résidait dans le fait que les Israélites n'avaient pas de prêtres fidèles pour les enseigner et que par conséquent, ils n'offraient pas un culte pieux à la gloire du Dieu de l'Alliance. Et dans de telles circonstances, il n'est pas concevable que le peuple puisse embrasser les promesses du Dieu de l'Alliance. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas respecté les ordonnances de l'Alliance, qu'ils ne pouvaient pas profiter des promesses de l'Alliance. Romains 10, verset 17, enseigne que « Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. » Pourtant, la Bible n'était pas enseignée en Israël et le culte n'était pas axé sur Jésus-Christ comme il se doit. Au contraire, l'esprit de prostitution est au milieu d'eux, verset 4. C'est-à-dire que le peuple de la nation idolâtre s'adonnait au rite de débauche sexuelle censé inspirer Baal pour qu'il leur accorde la fécondité. C'était ça qu'ils pratiquaient. Ils adoraient Baal, parce qu'ils espéraient devenir féconds. C'est ça qu'on leur a enseigné. C'est ça que leurs autorités, les prêtres, les rois, par rapport aux idolâtries qu'ils ont mis en place, qui les ont induits en erreur. Le peuple était spirituellement corrompu, au point d'avoir le cœur complètement endurci. Dieu ne les a pas laissés sans témoin. On le voit par le ministère d'Osée. Il y avait un témoin. Cependant, avec leur esprit englouti par l'infidélité et leur esprit fermé au message de la vérité, ils n'étaient plus capables de revenir à leur Dieu, comme on le voit au verset 4. Lorsque nous sommes plongés dans notre péché, nous prenons goût au péché. Il nous est incapable de reconnaître l'état dans lequel nous sommes s'il n'y a pas une grâce. La grâce de Dieu pour les pécheurs. La Bible enseigne que cette dépravation totale est la condition de toute personne privée de la grâce régénératrice de Dieu. Romains 3, les versets 10 à 12, reprend ce qui était vrai pour les Israélites et explique et l'applique aussi à tous les pécheurs. Il n'y a point de juste. Il n'y a point de juste. Même pas un seul. Nul n'est intelligent et nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Personne ne fait le bien. Non seulement la situation des Israélites était désespérée en ce qui les concerne, mais il en va de même pour tous les hommes, pour nous tous. Et donc la seule réponse réside dans la grâce de Dieu de sauver ceux qui sont spirituellement morts et même de leur accorder le don de la repentance. C'est Dieu, dans sa grâce, qui nous donne. C'est un don, c'est pas un mérite, c'est un don de Dieu. C'est ainsi que Paul écrit aux croyants dans Éphésiens 2, versets 8 à 9, « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. » Pourquoi ? Parce qu'en effet, aucun de nous n'est capable de faire le bien. Aucun de nous n'est attiré vers le bien. Et c'est un don de Dieu, dans sa grâce toute puissante, de nous donner ce désir de nous repentir. Et donc, comme si l'esprit de prostitution ne suffisait pas, les Israélites ont aggravé le problème par leur orgueil. Donc, ça s'en va de pire en pire. Idolâtrie, orgueil. Au verset 5, on lit que l'orgueil d'Israël témoigne contre lui. Et il serait difficile de croire qu'une nation puisse être remplie d'orgueil alors qu'elle a sombré dans le chaos et qu'elle est pratiquement impuissante face à une Assyrie qui était menaçante. À l'époque comme aujourd'hui, l'orgueil faisait partie d'une illusion spirituelle de l'idolâtrie qui empêchait les gens d'écouter Dieu. Notre orgueil nous éloigne de Dieu. Et nous lisons dans les proverbes que l'orgueil précède la chute aussi. Notre orgueil nous éloigne de Dieu. Le peuple d'Israël doit donc être humilié à cause de leur idolâtrie, à cause des crimes, à cause de leur orgueil. Ce peuple doit être humilié. Ce peuple doit être humilié à la fois pour sa restauration et comme châtiment pleinement mérité pour tout ce qu'ils ont fait. C'est pourquoi à la fois, comme partie nécessaire de sa restauration et comme châtiment pleinement mérité, Israël doit être abaissé. Et nous lisons au verset 5, « Israël et Éphraïm tomberont par leur iniquité, avec eux aussi tombera Juda. » Et en peu d'années, cette menace s'est concrétisée. Puisque les Assyriens ont envahi le royaume du Nord en 722 avant Jésus-Christ. Et cet événement aussi a entraîné un désastre aux portes de Juda. Et donc, apparemment, le peuple, malgré ça, continuait cependant à offrir des sacrifices au nom du Seigneur, cherchant peut-être à couvrir tous ses besoins. Mais comme le note Osée au verset 6, ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne le trouveront point. C'est grave quand même. Mais ils ne le trouveront point. Le Seigneur ne s'intéressait pas à leur rituel qui était vide de foi, qui était vide de sens. Parce qu'ils n'avaient pas de foi véritable. Ils n'étaient pas repentants. Donc le Seigneur ne pouvait pas prendre plaisir à ces sacrifices. Le problème auquel était confronté l'Israélite n'était pas seulement que leur cœur était façonné par l'idolâtrie, mais aussi que Dieu s'était éloigné d'un peuple qui était aussi impie. Et c'est ça le résultat lorsque nous nous éloignons de Dieu. Lorsque nous marchons contre Dieu, ben Dieu il s'éloigne de nous. Par conséquent, lorsque le peuple se présentait au sanctuaire sacré avec des offrandes pour le Seigneur, sans les cœurs contrits qu'il désirait, il n'était pas présent. Et quelque chose de semblable peut arriver aujourd'hui à certaines dénominations chrétiennes. Lorsque nous éloignons de la vérité biblique, lorsque la parole de Dieu n'est plus au centre de nos cultes, lorsque nous menons le peuple de Dieu vers l'idolâtrie, non seulement les gens deviennent ignorants, ils deviennent endurcis, mais Dieu s'éloigne d'elle dans un acte de châtiment qui est judiciaire. Et lorsque cela se produit, une chute précipitée en termes de vertu, de valeur et surtout de bénédiction spirituelle est certaine. Vous pouvez voir aujourd'hui, il y a des pays je pense à Haïti par exemple, des pays comme ça qui ont été dans des pratiques de vaudou qui s'est généralisé même à la tête du pays. Mais lorsque vous voyez ce qui se passe dans l'actualité, c'est chacun pour soi en fait. Il n'y a plus d'ordre, il n'y a plus de loi, il y a des crimes de tout genre parce qu'on a abandonné ces valeurs là on s'est éloigné de Dieu. On s'est plus rapproché de la créature que du Créateur. Et c'est face à une telle perspective qu'Osée s'est tenu fidèlement devant sa nation et a proclamé la parole de Dieu. Et nous devons en faire de même aujourd'hui. Nous ne devons pas arrêter de proclamer la parole de Dieu. C'est vrai que nos gouvernements ne connaissent pas Dieu. On peut voir par tout ce qui se trame, par les lois qui sont votées. Mais nous devons prier pour eux. Prier pour nos autorités. Afin que Dieu puisse les toucher. Afin que Dieu puisse les visiter. Rien n'est impossible à Dieu, vous savez. Mais prions fermement pour nos autorités. Afin qu'on puisse avoir des endroits qui sont paisible pour qu'on puisse venir adorer notre Dieu. C'est un privilège que nous avons d'être là. Il y a des pays où ils sont persécutés, où ils ne peuvent même pas lever le bout du doigt pour dire qu'ils sont chrétiens, où ils ne peuvent même pas se réunir un dimanche pour adorer leur Dieu. Ils le font en cachette. C'est tout un privilège qu'on a. Et rien que pour ça, on devrait pouvoir venir le dimanche à l'église, chanter avec joie, proclamer que Dieu est vivant. Et nous devons proclamer l'Évangile en présentant à la fois les avertissements de la colère et l'offre aimante de la grâce. C'est vrai qu'il y a la colère de Dieu, mais il y a la grâce qui est là également. Que lorsque nous marchons exclusivement avec Christ, dans sa grâce, il va nous secourir. Dans sa grâce, il va nous apporter tout ce dont nous avons besoin pour marcher sur cette terre où nous sommes de passage. Nous sommes de passage ici. La synagogue de Nazareth, ville natale de Jésus, où il est apparu en personne comme le Messie promis, est un exemple. Les gens avaient entendu parler de ses exploits et le voyaient maintenant dans sa grâce salvatrice. Mais lorsqu'ils ont tourné leur cœur contre lui, ils ont perdu non seulement cette occasion d'être sauvés, mais ils ont perdu l'occasion d'avoir Jésus avec eux. Jésus n'est jamais revenu dans sa ville natale, mais comme Luc conclut dans son récit, dans Luc 4, verset 30, « Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. » Il n'est pas resté au milieu d'eux. Et donc, que nous reste-t-il si le Seigneur se retire ? Pour le peuple d'Israël, la réponse est l'aboutissement naturel des péchés auxquels Dieu l'a livré. Ils ont été infidèles à l'Éternel, car ils ont engendré des enfants illégitimes. Maintenant, un mois suffira pour les dévorer avec leurs biens. En tant qu'enfants illégitimes exclus de l'alliance de Dieu, ils n'avaient pas de vrai Dieu pour les délivrer des conséquences du péché. Dieu n'était plus présent pour les délivrer. Devenu un peuple de ténèbres, ils constatent que l'ombre de la Syrie s'abat sur eux et que leur nation est dévorée, tout simplement pour disparaître du monde. C'est ce qui se passe lorsque nous nous éloignons de Dieu, lorsque nous persévérons dans notre péché, notre cœur est endurci. Mais le Seigneur, lui, s'éloigne aussi de nous. Le Seigneur s'éloigne de nous. Mon troisième point, des versets 8 au verset 14, une nation sous le coup du jugement. Les derniers versets, 2 et 5, décrivent quatre leçons concernant une culture qui a subi le jugement de Dieu. Premièrement, un peuple corrompu découvrira que le péché augmente les conflits en son sein. C'est ça. C'est ce qui s'est passé ici. Nous allons voir que c'est ce que montrent les trompettes qu'Osée réclame dans les villes de Benjamin. Au verset 8, « Sonnez de la trompette à Gibéa, sonnez de la trompette à Rama, poussez des cris à Beth-Aven, derrière toi, Benjamin. » Et donc, nous avons noté plus haut que l'appel de Dieu aux trompettes signifiait parfois un triomphe de la part du Seigneur. Ici, cependant, les trompettes sonnent avec le même message que les sept trompettes du livre de l'Apocalypse, comme des avertissements d'un jugement qui arrivera bientôt. Les trompettes sonnant en Benjamin signifiaient un appel aux armes. Ici, il y avait un appel aux armes, un appel à la guerre. Benjamin était encore rattaché à Juda et son territoire à côté de celui d'Israël au nord. Et donc, si des trompettes de guerre ont sonné sur cette frontière, c'est peut-être parce qu'Israël au nord a été complètement envahi par les Assyriens. Mais les noms de l'ordre, les noms et l'ordre des villes ici énumérés suggèrent quelque chose de plus. Nous allons voir que Gibéa, Rama et Beth-Aven, c'est-à-dire Bethel, forme une ligne qui va du sud au nord de Benjamin, en Israël. Et donc, il semble que les Benjamins se déplaçaient vers le royaume du nord. Et donc, les mots « derrière toi, Benjamin » suggèrent une avancée en troupes, donc une avancée militaire, probablement dans le but d'arracher les territoires à leurs cousins du nord. Et nous allons voir que cette expression est renforcée par l'accusation au verset 10. Les chefs de Juda sont comme ceux qui déplacent les bornes. En fait, quand on parle de bornes, on parle de frontières. Et le déplacement des frontières était fermement condamné dans la Bible, parce que cela perturbait la paix et l'ordre dans le pays. Et donc, ce péché a certainement été commis par le méchant roi Akaz lors de son conflit avec Israël. Dieu fera pleuvoir l'opprobre au verset 10. Je répandrai sur eux ma colère comme un torrent, parce qu'ils ne respectent pas ma loi. Et l'histoire rapporte, lorsque nous lisons dans le deuxième livre des rois, que dans son désespoir de gérer la menace de la Syrie, Israël s'est allié à la Syrie, Damas, pour avoir de l'aide militaire de l'Égypte. Le problème, c'était que Juda se trouvait entre Israël et l'Égypte. Et que Juda n'était pas disposé à s'allier. Il ne voulait pas s'allier. Et donc, sentant la nécessité de consolider son flanc sud et ayant besoin d'un passage vers l'Égypte, l'Israël et la Syrie lancent en 735 avant Jésus-Christ ce que l'on appelle la guerre syro-éphraïmite contre Juda. Et donc, qu'est-ce qui se passe ici? Il s'agit d'une guerre entre frères. Un frère qui faisait la guerre à son frère. Le roi de Juda, Akaz, a réagi en appelant les Assyriens à l'aide, leur donnant ainsi le prétexte de débarquer avec toute leur puissance. Et donc, une fois que la Syrie est arrivée et a commencé à mettre Israël en pièces, parce qu'ils ont mis Israël en pièces, Juda et Benjamin ont cherché à se tailler en morceaux pour eux-mêmes. Donc, c'est le chacun pour soi. Et donc, leur idolâtrie, leur péché, leur orgueil ont fait en sorte qu'ils puissent s'affronter entre frères, afin qu'ils soient en conflit. Et c'est ce qui se passe de nos jours. Lorsque le péché et l'idolâtrie provoquent le retrait de Dieu dans une société, comme je l'ai mentionné, c'est chacun pour soi. Les gens s'éliminent entre eux. Les guerres deviennent fratricides entre gens d'un même pays. Et dans ce contexte, Israël a succombé et a été détruit. Au verset 9, nous lisons qu'Éphraïm sera dévasté au jour du châtiment. J'annonce aux tribus d'Israël une chose certaine. Cet exemple montre que lorsque Dieu a été retiré d'une nation et que les effets de l'effondrement culturel sont évidents, la nécessité pour le peuple de Dieu de témoigner de l'Évangile et de prier est particulièrement urgente. D'où la présence d'Osée. Et c'est le cas aussi de nos pays. Nous voyons tout ce qui se passe autour de nous. Je ne vais pas noter, je ne vais pas énumérer tous les scandales qu'on voit de nos jours, toute la dépravation morale, l'immoralité que nous vivons tous les jours. Mais il y a une urgence pour le peuple de Dieu de prier pour des autorités bibliques, de prier pour que le Seigneur puisse ramener cette nécessité-là, cette urgence à nous reposer sur sa parole et être aussi imprégné de cette parole. Une deuxième leçon qu'Israël apprendrait est que toutes les tentatives incrédules d'échapper au jugement de Dieu échoueront. Parce que lorsque Dieu décrète quelque chose, ben il va le mettre en application. La dure réalité de cette calamité est énoncée directement au verset 11. Éphraïm est opprimé, brisé par le jugement, car il a suivi les préceptes qui lui plaisaient. Il a suivi ces préceptes-là qui lui faisaient plaisir. Il voulait vivre par ces préceptes-là. Le Seigneur appelle au verset 12 que ce jugement ne vient pas tant des Assyriens que de lui-même, parce qu'il dit que je serai comme une teigne pour Éphraïm, comme une carie pour la maison de Juda. Dieu n'est plus présent pour bénir Israël, mais sa présence affaiblit Israël. Il n'est plus là pour bénir Israël, mais le fait qu'il soit là affaiblit Israël. Osée réveille donc son public en lui montrant que Dieu se battra contre lui plutôt que pour lui. Lorsque nous pensons à la colère de Dieu, il y a souvent ce feu-là que nous voyons. Le feu et le soufre qui tombent du ciel. Mais souvent les jugements les plus meurtriers de Dieu impliquent un abandon silencieux. Un abandon progressif des pécheurs à leurs désirs. Donc, en baignant dans notre péché, on continue là-dedans. Et au fur et à mesure, le Seigneur nous laisse dans notre idolâtrie, dans nos péchés. Romains 1, verset 24 fournit une contrepartie théologique au portrait d'Osée en disant qu'à cause de l'idolâtrie persistante de l'homme, c'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Et ce sont les conséquences de l'idolâtrie sous toutes ses formes. Ils ont adressé leur adoration à des créatures, ils ont été endurcis. Ils ont abandonné Dieu et Dieu les abandonna. Il les laissa faire tout ce qu'ils voulaient afin qu'ils se déshonorent eux-mêmes. Et lorsque Paul écrit dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Il nous rappelle que le salaire, parce que nous savons que nous recevons un salaire, soit semaine après semaine, mois après mois. Le salaire du péché, c'est la mort. Et c'est progressif. Une troisième leçon nous montre que les alliances mondiales conçues pour nous protéger du jugement de Dieu ne font qu'empirer les choses. Souvent, on le voit dans les États, il y a des alliances qui se forment entre un voisin, entre un peuple, disons, qui était autrefois ennemi. La réponse d'Israël à ces signes évidents de châtiment divin a été de se repentir, non pas au Seigneur, mais au chef de la Syrie. Donc au lieu de se tourner vers son Dieu, de se repentir, Israël alla vers le roi de la Syrie. Au verset 13, Éphraïm voit son mal et Juda ses plaies. Éphraïm se rend en Assyrie et s'adresse au roi Jareb. Mais ce roi ne pourra ni vous guérir, ni porter remède à vos plaies. C'est un peu ce qui se passe au quotidien dans nos vies aussi. Lorsque nous traversons des moments difficiles, le premier réflexe est souvent d'aller vers les hommes. Vers les hommes, vers la créature, au lieu du Créateur. La créature ne peut rien pour nous. C'est vers notre Dieu que nous devons nous diriger. Lui en premier. Cette accusation fait probablement référence aux tributs payés en 745 avant Jésus-Christ par Ménahem pour assurer la paix avec Tiglath-Pileser. Donc c'était pour avoir un genre de paix. Mais une paix, quel genre de paix? Une paix éphémère. C'est Dieu qui nous donne la paix. Sa paix est plus importante et plus précieuse que toutes les paix que nous allons chercher dans ce monde. Ce que le monde a nous à offrir est éphémère et passager. La vraie joie, la vraie paix, la vraie sécurité se trouve en Christ, notre Seigneur. Amen. Comme nous nous agitons souvent et manipulant désespérément, cherchant à éviter les conséquences du péché, alors que le chemin le plus simple, mais aussi le plus humble, de la repentance devant Dieu est toujours disponible. Ce chemin ne nous est pas fermé, le chemin de la repentance. Il est toujours disponible. Parce que nous avons un Dieu de grâce. La réaction du Seigneur à cette trahison flagrante de l'Alliance sera extrêmement violente. Au verset 14, Osée donne une dernière leçon à ceux qui sont jugés, en soulignant la force souveraine de Dieu pour déchirer et détruire. Je serai comme un lion pour Éphraïm, comme un lionceau pour la maison de Juda. Moi, je déchirerai, puis je m'en irai, j'emporterai, et nul n'enlèvera ma proie. C'est terrifiant hein, quand vous voyez des vidéos des lions qui se saisissent de leur proie, qui les dépiècent. Et personne d'autre ne peut venir les arracher. Et c'est de cette façon qu'on voit comment Dieu agira vis-à-vis d'Israël. Et les lions sont synonymes de force et d'agilité violente. Comme un grand lion mâle, le Seigneur se jetterait sur sa proie, sur la proie de son jugement. Alors que nous prenons le péché à la légère, lorsque Dieu vient dans sa colère, il y a une terrible fureur de la justice de l'Alliance. De même que le lion traîne sa carcasse, déchirant la chair pour alimenter sa force. De même, le Seigneur retourne à son trône céleste, satisfait du maintien de sa sainte nature. À la fin, Dieu ne délègue pas son jugement, mais il déclare « Moi, je déchirerai, puis je m'en irai. » Parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Tim Chester commente que nous sommes en guerre contre Dieu. Nous sommes tous en guerre contre Dieu. Et dans notre bataille contre Dieu, il n'y aura jamais qu'un seul vainqueur. Vous devinez qui sera le vainqueur? Il n'y aura qu'un seul vainqueur. Israël avait craint la Syrie, mais Israël avait oublié Dieu. Israël craignait la Syrie. Et Israël a oublié son Dieu. Pourtant, Jésus nous met en garde dans Matthieu 10, verset 28. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. C'est une raison suffisante pour nous de nous reposer sur Christ. Une raison suffisante pour nous de n'avoir que lui comme souverain sacrificateur, de n'avoir que lui comme le Dieu Tout-Puissant, notre rocher, sur lui sur qui nous mettons tous nos espoirs de rédemption, tous nos espoirs de vie. Dans ce siècle présent et dans le siècle à venir. Et le verset 15, pour conclure, il est remarquable que ce passage qui annonce la manière la plus violente, le jugement certain de Dieu, se termine par une note de grâce. Parce que c'est ça notre Dieu. C'est un Dieu de grâce. Et dans sa discipline, parce que la discipline, c'est une preuve d'amour. La discipline de Dieu est une preuve d'amour. Pour amener le pécheur à la repentance. Pour amener le pécheur vers lui. Afin qu'il soit restauré dans sa présence. En effet, la dernière leçon à donner à une culture sur le coup du jugement est qu'il n'est pas nécessaire qu'il en soit ainsi. C'est pas nécessaire. Ce n'est pas nécessaire de courir dans tous les sens, de chercher la vie du point de vue de la créature, mais de rechercher cette vie-là en notre Créateur, de puiser toute notre espérance en lui. Le Seigneur déclare, au verset 15, « Je m'en irai, je reviendrai dans ma demeure. » Jusqu'à ce qu'ils s'avouent coupables et cherchent ma face. Quand ils seront dans la détresse, ils auront recours à moi. Et on peut voir la comparaison au verset 6. Le verset 15 et le verset 6. Verset 6, nous lisons qu'ils iront avec leurs brebis et leurs bœufs chercher l'Éternel, mais ils ne trouveront point, il s'est retiré du milieu d'eux. Et le verset 15 nous donne l'occasion de discuter de ce que signifie chercher le Seigneur avec un cœur sincère. Chercher le Seigneur de tout notre cœur. Toutes les recherches ne sont pas toujours couronnées de succès. Non. Parce que souvent on se dit qu'on va se prendre un mur. Mais Dieu promet que ceux qui le cherchent de tout leur cœur le trouveront. Si nous le cherchons de tout notre cœur, nous allons le trouver. De tout notre cœur, de tout. Ce n'est pas une partie du cœur, mais de tout notre cœur. De tout notre être. Et le but de la discipline divine était de créer ce genre de cœur. Si Dieu a discipliné Israël de cette façon, c'était pour le façonner, l'emmener et avoir un cœur qui cherche le Seigneur avant tout. Malgré toute sa colère face à l'idolâtrie et à la corruption de son peuple, et malgré toutes les menaces qu'il allait bientôt mettre à exécution, le désir du Seigneur était qu'Israël se convertisse et soit sauvé. C'est le désir de Christ pour nous tous, que nous soyons sauvés et qu'on puisse se convertir. C'est son désir. Ce n'est pas en cherchant le pardon chez l'autre. Ce n'est pas en cherchant les richesses de ce monde. Ce n'est pas en cherchant à amasser tout ce qui est éphémère dans ce monde, mais en cherchant de tout notre cœur le Dieu Tout-Puissant. Tout comme Dieu l'a montré dans ce drame conjugal entre Osée et Gomère, dans les trois premiers chapitres, son désir d'amour était de dire une fois de plus, comme nous le lisons dans Osée 2, versets 21 à 22, « Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. » Voilà la vraie merveille de notre vie en Christ. Voilà cette vraie merveille. Non pas qu'un Dieu saint mette en pièces son peuple pécheur, mais plutôt une grâce aimante qui confond notre sagesse et vise à reconquérir nos cœurs. C'est tout ce qu'il souhaite, Dieu. C'est reconquérir notre cœur. Dans ce dernier verset, l'image du lion, ici, se transforme en celle d'un agneau. Il s'agit bien sûr de l'image même de Jésus exalté dans l'Apocalypse 5, des versets 5 à 6, et dans les évangiles du Nouveau Testament, nous constatons que Dieu ne s'est pas contenté d'attendre. Dans Matthieu, Marc, Luc, Jean, Dieu ne s'est pas contenté d'attendre. Mais il a envoyé son Fils dans un monde encore captif de l'idolâtrie, dans un monde qui est captif du péché. Romains 5, verset 8 déclare que « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. » Il n'a pas attendu. Nous étions encore des pécheurs lorsque Christ est venu. Et avec ça aussi, nous l'avons crucifié. Il n'a pas attendu notre repentance. Il n'a pas attendu qu'on s'agenouille devant lui, qu'on lui demande pardon. Mais dans son immense amour, avec tout le péché qu'il voyait en nous, il a envoyé Jésus-Christ mourir pour nos péchés. Et que demande le Seigneur devant nous? Nettoyer nos propres plaies et nous acquitter de notre propre dette à l'égard du péché? Non. Non. Il appelle simplement les pécheurs à confesser leur culpabilité. Il nous appelle à confesser notre péché, à rechercher sa miséricorde et à venir avec un cœur sincère dans la repentance et dans une foi confiante. C'est tout ce qu'il nous demande. De venir à lui, repentant, lui demander pardon de nos péchés. Cette offre de l'Église, cette offre de l'Évangile, n'est-elle pas une meilleure alternative que le chemin de la ruine et de la destruction emprunté par Israël? Mieux encore, nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous n'avons pas besoin d'attendre. Nous pouvons dès maintenant venir à lui. Si nous avons des péchés quelconques, nous avons une culpabilité quelconque, des maux qui nous rongent, un passé qui nous appelle, comme Raymond le dit, un passé qui est toujours là, qui nous range, venons simplement au pied de la croix. Demandons pardon pour nos péchés. Et Dieu, il est fidèle et bon pour nous pardonner ces péchés et de nous laver de toute iniquité. Jean écrit dans 1 Jean 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Dieu nous pardonne grâce au sacrifice offert par Jésus sur la croix. » 1 Jean 2, verset 2, « Il est lui-même une victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. » C'est un appel général. C'est un appel à toutes les nations, c'est un appel à tout le monde, à venir au pied de la croix, à venir à Christ, et à reconnaître notre état de pécheur, et lui demander pardon pour ce que nous sommes. C'est maintenant qu'il faut se confesser. C'est maintenant qu'il faut se repentir. C'est maintenant qu'il faut croire. Il ne faut pas attendre. Fils, lui, n'a pas attendu. Nous n'avons pas à attendre. Si Paul avait ajouté son témoignage aux appels d'Osée en Israël, il n'y a guère de doute ce qu'il aurait dit dans 2 Corinthiens 6, verset 2. Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. Amen.